L'un des groupes musicaux les plus connus au monde est le groupe irlandais U2. Et parmi les titres connus de ce groupe, l'un des plus connus s'appelle, en anglais, « Where the streets have no name », là où les rues n'ont pas de nom. Je suis sûr qu'il y a quelques fans dans cette pièce. Et dans cette chanson, il est question du contraste entre une ville présente, marqué par la rouille, la poussière, le danger. Contraste entre cette ville et une ville mystérieuse, désirée, élevée sur une plaine déserte, dit le texte, où, comme le répète le refrain, les rues n'ont plus de nom. Et il semble que par ce refrain, le chanteur Bono ait voulu faire référence au nom de rue dans son Irlande natale, qui identifie très rapidement l'origine sociale, religieuse, de quelqu'un. Et dans cette chanson, il rêve d'une ville sans ses barrières, où il ne reste que l'amour et la paix. Est-ce qu'au fond de nous, nous n'aspirons pas tous profondément à un tel lieu? La Bible nous parle, elle aussi, d'une ville que nous attendons. Elle nous parle même d'un monde nouveau, un monde nouveau qui tire ses racines d'un monde ancien. Au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, avant le drame de la désobéissance humaine, un jardin est décrit, un jardin plein d'abondance, de joie, de paix, d'une relation sans entrave, proche et confiante avec Dieu. Et à la fin de l'Apocalypse, à la fin de la Bible et de l'Apocalypse de Jean, qui en est le dernier livre, dans une vision de l'avenir ultime, on retrouve de nombreux aspects de ce texte inaugural. Il est question du ciel, de la terre, d'un arbre, d'un fleuve, d'une relation proche et confiante avec Dieu. Mais cette fois, ce n'est pas un jardin qui est décrit, c'est une ville. Et je vous invite à lire dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 21, dans les Bibles bleues, sont redevenues bleues, qui sont devant vous, c'est à la page 1418, si vous souhaitez suivre dans cette Bible-là. Apocalypse 21, et nous lirons l'ensemble du chapitre 21 et les cinq premiers versets du chapitre 22. Et par cette réflexion, nous terminons une série de quatre dimanches où nous avons particulièrement porté nos regards sur notre ville de Paris. Et il s'agira de réfléchir à la fois à la ville que nous attendons, mais aussi à la ville que nous connaissons et que nous aimons. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. » Et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies ». Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes et à ses portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations, qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 kilomètres. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres, selon la mesure humaine qu'employait l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses, de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis il me montra le fleuve d'eau de la ville, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les 2 bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Je vous invite à poser notre regard sur cette ville que nous attendons, et à le faire en 2 temps, en y voyant d'abord une ville où le mal n'a plus sa place, et ensuite une ville où Dieu a toute sa place. Et on essaiera de voir au fil de cette réflexion en quoi cette ville que nous attendons doit changer notre vie aujourd'hui, notre regard sur notre vie et même sur la ville que nous connaissons. Une ville où le mal n'a plus sa place tout d'abord. Si on devait imaginer le monde à venir, vous êtes sans doute arrivé de le faire, pour le moins pour vous qui êtes chrétien, comment est-ce qu'on le décrirait? Comment est-ce qu'on l'imagine? Sans doute comme un paysage suisse, comme sur les calendriers chrétiens. Des montagnes, une cascade, une biche, un verset en haut à gauche. C'est très joli. Pourtant, il est frappant que la Bible, qui a commencé en parlant d'un jardin, se termine en parlant d'une ville. Pourquoi une ville? Vraisemblablement parce que l'image que Dieu veut nous laisser est celle d'une vaste communauté humaine, d'un peuple nombreux, et non pas simplement d'un lieu où chacun sera un peu dans son coin. Alors, bien sûr, la ville qui nous est décrite ici est insaisissable. Elle est mystérieuse. Il y a là une vision qui est donnée à Jean et elle était insaisissable pour lui. Alors qu'il était en exil, qu'il fuyait la persécution, de plus en plus prévalente dans l'Empire romain. Mais ces ténèbres que Jean connaissait, que nous connaissons aussi de diverses manières, sont comme percées par ces paroles du Seigneur. Verset 5, « Voici ». Je fais toute chose nouvelle. Au début de ce texte, les images se succèdent et se mêlent. Il est question d'une nouvelle terre, d'un nouveau ciel, puis d'un tabernacle, autrement dit d'un lieu où Dieu réside, puis d'une épouse attendue, dévoilée, et enfin de cette ville saisissante, magnifique, la ville sainte, Jérusalem. Mais on comprend vite qu'il ne s'agit pas de la Jérusalem où Jean a grandi. Verset 16, l'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 kilomètres. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. On est bien sûr dans un registre imagé. Et dans le texte original, la mesure est 12 000 stades. La muraille, elle, est de 144 coudées, 12 fois 12. Dans la Bible, le nombre 12, comme 7, 40 ou 1000, sont des chiffres, des nombres qui représentent la complétude, la plénitude. Alors 12 fois 1000 ou 12 fois 12, ce sont des manières de dire l'immensité, l'aspect illimité de cette cité. Une ville illimitée donc, mais aussi à la beauté parfaite, comme l'exprime la succession de pierres précieuses au verset 19 et 20. Là encore, il y en a 12. Jaspe, saphir, calcédoine, émeraude, sardoine, cornaline, chrysolite, béryl, topaz, chrysoprase, hyacinthe, améthyste. Je ne sais pas si certains savent exactement à quoi correspond tout cela. Mais en tout cas, on comprend que c'est très beau. D'autres éléments sont donnés pour exprimer une cité parfaite, une cité splendide à laquelle il ne manque rien et dans laquelle se vit la plus complète liberté. Des portes, mais qui ne se ferment jamais, verset 25, parce qu'il n'y a plus de danger, il n'y a plus rien à craindre. Une muraille, versets 17 et 18, mais qui est là plutôt pour émerveiller que pour protéger, parce que là encore, il n'y a pas de menace. Une lumière, verset 23, telle qu'il n'y a plus besoin de soleil, ni de lune. Même Paris, la plus belle ville du monde, selon beaucoup, pâlit à côté d'une telle vision. Mais ce qui est plus remarquable encore que les dimensions ou la beauté de cette ville, c'est le fait que c'est une ville libérée de tout ce qui a servi aujourd'hui l'humanité. Le mal, le péché, la souffrance, la mort. Verset 4, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Il y a là un écho, notamment du prophète Ésaïe, qui bien des siècles avant ce texte, annonçait lui-même un monde nouveau, à peu près dans les mêmes termes. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Ésaïe 25, verset 8. Et en fait, tout au long de la Bible, on retrouve cette conviction que le monde que nous connaissons actuellement n'est que l'ombre décevante du monde qui est notre véritable chez nous. Ce monde auquel nous aspirons au plus profond de nous-mêmes. Un monde marqué par la beauté, l'abondance, la joie et la plénitude à l'infini. Eh bien, ce monde nouveau, Dieu le promet ici, verset 27, à tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est-à-dire, dans le langage de l'Apocalypse, tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ et qui lui ont donné leur vie. Alors, bien sûr, en entendant cela, beaucoup diront, peut-être pas beaucoup ici, mais beaucoup diront que c'est un doux rêve pour des gens qui n'arrivent pas à accepter la réalité telle qu'elle est et qui doivent se construire une chimère, un monde idéal. Une autre interprétation est possible. Si l'homme aspire depuis toujours à ce qui est plus grand que lui, on le voit depuis le début de l'histoire humaine dans toutes les civilisations, si l'homme aspire depuis toujours à ce qui est parfait, à ce qui est éternel, se pourrait-il que ce désir est enfoui au plus profond de son cœur parce qu'en fait, il a été créé pour un autre monde et qu'il ne peut pas et ne pourra jamais se satisfaire du monde déchu que nous connaissons. On a déjà vu dans ce texte qui clôt la Bible, qu'il fait écho au tout début de la Bible. Il y a comme une parenthèse qui se referme. Et à la fin de notre texte d'aujourd'hui, au chapitre 22, verset 2, on retrouve l'arbre de vie qui était au centre du jardin d'Éden, Genèse 2, verset 9. Dans la Genèse, les fruits de cet arbre était pleinement disponible pour l'homme, contrairement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On confond parfois les deux. L'arbre de vie, il était là pour les hommes et les femmes. Mais après la désobéissance de l'homme et de la femme, son accès a été barré aux humains. Genèse 3, 24. Et cet arbre de vie, on le comprend, on le comprenait déjà en lisant la Genèse, mais c'est confirmé ici, symbolise la vie que Dieu donne, qu'il renouvelle constamment. Or, lorsque l'homme s'est détourné du Créateur de la vie, il s'est retrouvé face à ses propres ressources limitées, face à la mort. L'arbre de vie n'est plus accessible, le chemin est barré. Mais dans ce monde nouveau qui nous est décrit ici, l'arbre de vie est à nouveau pleinement accessible. Et il est même, verset 2, en plein milieu de la ville, comme il était en plein milieu du jardin. Verset 2, il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles serviront à la guérison des nations. Et là, il y a un écho, cette fois, au prophète Ézéchiel, qui s'exprimait à peu près en ces termes, en annonçant le jour où Jérusalem serait traversée par un torrent qui viendrait du temple et qu'il y aurait de nombreux arbres qui, je cite, « donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. » Ézéchiel 47, 12. Dans cette ville à venir, donc, la vie est au cœur de toute chose et la vie est sans cesse renouvelée. Et cette profonde aspiration dans le cœur de l'homme trouve enfin son accomplissement. Comme l'écrivent Jean Delorme et Isabelle de Négani à propos de ce texte, « La voix sortie du trône transforme le rêve de l'humanité, le désir fou que tout semble démentir, en annonce assurée, largement offerte à celui qui l'accueille. » Alors c'est vrai, dans ce tableau magnifique, il y a aussi quelques paroles plus difficiles à entendre. Verset 8, « Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. » Ouf, c'est dur. Et au verset 27, de façon similaire, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. » Des mots qui peuvent paraître très sévères au premier abord. Mais il faut les mettre en contraste avec ce qui vient juste avant, le verset 7 au verset 6. « À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de l'eau de la vie. » Il nous est rappelé, avec des images fortes, que si on persiste à vivre dans la révolte contre Dieu, on ne pourra pas avoir sa place dans un monde réconcilié avec Dieu. C'est logique. Si on rejette son pardon, il ne reste que son jugement. Mais à tous ceux qui ont soif, y compris les plus grands des pécheurs, la porte est grande ouverte, comme on l'a chanté un peu plus tôt. Celle que Jésus-Christ a ouverte par son sacrifice à la croix. La condamnation du péché, c'est lui qui l'a prise sur lui. Et c'est pour ça que le salut qu'il offre est gratuit. Alors maintenant, qu'est-ce que cette vision d'un monde où le mal n'a plus sa place change pour nous aujourd'hui? Peut-être que certains se disent, c'est une très belle vision, mais... bon, demain je vais au boulot, qu'est-ce que ça change? Cet après-midi je vais à l'Assemblée Générale, qu'est-ce que ça change? Eh bien d'abord nous devons nous assurer que nous avons bien saisi ce salut qui nous est offert. Que nos noms sont bel et bien inscrits dans le livre de vie de Jésus-Christ, verset 27. Alors certains diront peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu ce livre. Mais si vous avez placé votre foi en lui et que vous avez reçu le don offert, alors la Bible promet que votre nom est inscrit dans le livre de vie de Jésus-Christ. Et il n'est pas trop tard pour se tourner vers lui. Et si vous avez résisté jusque-là à son appel, c'est peut-être, sans doute, le cas de quelques-uns parmi nous. Vous pouvez y répondre aujourd'hui. Comme le disait le chant, à 7h, en ce moment. N'hésitez pas à venir nous en parler à l'un des responsables de l'Église tout à l'heure. L'autre leçon que nous devons retenir, c'est que nous ne pouvons pas poser aujourd'hui un regard complaisant sur notre péché, sur le mal qui est présent dans notre vie. Comment pourrions-nous aspirer à un monde débarrassé du mal, tout en estimant que le mal que nous pouvons commettre aujourd'hui, à petite ou grande échelle, cupidité, égoïsme, mépris, injustice, immoralité, oh, c'est pas si grave que cela. On ne peut pas être complaisant vis-à-vis de cela et en même temps dire qu'on aspire à un monde où le mal n'est plus là. C'est pas possible. Nous sommes invités, au contraire, à préparer aujourd'hui cette réalité de demain, en demandant à Dieu de nous aider à vivre une vie où le mal n'a plus sa place. Et enfin, cette vision peut, je crois, changer notre regard sur la ville de Paris. Parce que plus nous serons saisis par le contraste entre notre réalité et celle qui est décrite ici, plus nous aurons envie d'être témoins par nos paroles et nos actes d'une autre vie, d'une autre ville où Dieu a toute sa place. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point, une ville où Dieu a toute sa place. J'ai grandi dans une famille chrétienne et quand j'étais petit, j'allais à l'église avec mes parents à Brie-sur-Marne, pas très loin d'ici. Et à l'école du dimanche, on chantait parfois une petite chanson qui disait ceci, peut-être certains la connaissent, peut-être qu'elle a été chantée ici à l'école du dimanche. « Nous voici dans le train en partance pour le ciel, il quitte bientôt la gare de cette terre. » Et ensuite, il est question des enfants jaunes, rouges, noirs ou blancs qui prennent leur place dans ce train. C'était toute une époque. On ne parle pas vraiment comme ça aujourd'hui, mais... Cette chanson a pas mal nourri mon imagination quand j'étais enfant. Et à son crédit, elle communique des choses importantes. La diversité de l'Église, par exemple, ou le désir de vivre en communion avec Dieu, de rejoindre enfin la maison du Père. Mais elle laisse entendre, comme très souvent, que l'espérance chrétienne est un jour de quitter cette terre pour de bon. Est-ce que c'est vraiment cela que la Bible enseigne ? Trop souvent, je crois, à mon sens, on croit, à tort, que l'espérance ultime du chrétien, c'est de vivre une vie exclusivement spirituelle, désincarnée, au ciel, loin de la réalité terrestre. Or, en lisant ce texte, deux choses doivent immédiatement attirer notre attention. D'abord, ce qui nous est promis au verset 1, c'est une nouvelle création, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ce n'est pas le seul texte dans la Bible qui parle en ces termes. Une nouvelle terre. Ce n'est pas pour rien que ces passages, le prophète Ésaïe, Jésus en parle également, la deuxième lettre de Pierre en parle, l'apôtre Paul en parle. Ce n'est pas pour rien que ces passages sont là. Alors bien sûr, ce sont des images dans un sens, oui. Mais ces images nous donnent un aperçu d'une réalité dont la Bible parle à bien des reprises. La promesse d'une terre entièrement renouvelée par Dieu, où il y aura des êtres humains, vivant dans des corps glorifiés, nous dit la Bible, ressuscités, à l'image de la résurrection de Jésus. Il y aura de la nature, il y aura une vie concrète, plus concrète que jamais même. En fait, la Bible nous invite, d'une part, c'est vrai, à placer notre espérance dans le ciel au sens du lieu de résidence de Dieu, de ce Dieu transcendant qui est dans le ciel et qui est tout autre. Mais aussi, notre espérance est aussi amenée à être placée dans la terre, une terre entièrement renouvelée et transformée par Dieu. Et c'est toute la force de cette image que nous trouvons ici, où la cité céleste descend du ciel sur la terre, verset 10, et où Dieu lui-même vient résider sur la terre. Et je rappelle que ce texte nous décrit l'horizon ultime. Et c'est ça qui est le plus merveilleux dans cette cité, c'est qu'il n'y a plus aucun obstacle à la pleine et parfaite communion avec Dieu. Dieu est venu résider sur la terre. Verset 22, « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. » Dans l'ancienne Jérusalem, le temple représentait la présence de Dieu. Mais dans la nouvelle, il n'y aura plus besoin de représenter cette présence comme un souvenir pour les hommes, parce que Dieu sera là de manière immédiate. Bien sûr que Dieu est déjà là partout, mais il sera là de manière immédiate et il n'y aura plus aucun obstacle à la relation avec lui. Le chapitre 22, verset 4 nous dit que nous verrons son visage. Une petite phrase stupéfiante quand on pense à tous ces textes qui nous disent dans la Bible que l'homme ne peut pas contempler Dieu dans toute sa gloire sans être terrassé. Mais ici, l'éclat de la gloire de Dieu n'est plus cause de terreur pour des hommes pécheurs. La gloire de Dieu ici illumine le monde pour des hommes définitivement réconciliés. Chapitre 21, verset 23. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. L'apôtre Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Voilà notre avenir, si nous avons saisi la vie nouvelle que Jésus-Christ nous offre. Au-delà de splendeurs que nous ne pouvons pas imaginer, il y aura la joie inexprimable d'avoir retrouvé notre chez-soi, notre chez-nous, auprès du Père. Alors que retenir pour le présent de cette vision d'une ville où Dieu a toute sa place ? D'abord un immense encouragement. Parce que si nous avons placé notre espérance en Jésus-Christ, nous devons nous émerveiller de ce que Dieu nous a déjà introduit dans sa présence par le Saint-Esprit. Et bien des textes nous disent cela, notamment Éphésiens 2:6, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit cela. Nous sommes invités à vivre dès aujourd'hui un avant-goût de cet horizon ultime. On est Nous sommes invités à le vivre personnellement, mais aussi dans la communauté des croyants. L'Église est une anticipation de cette cité où une foule sera rassemblée pour adorer ensemble Dieu et pour vivre sous son autorité. Tout près d'ici, rue du Cherche-Midi, il y a l'ambassade du Mali, parce que certains ont déjà remarqué. Qu'est-ce que c'est qu'une ambassade ? C'est un tout petit bout de territoire souverain d'un autre pays. Quand vous entrez dans l'ambassade du Mali, je ne suis jamais allé, mais j'imagine que quand on y entre, eh bien, on est au Mali d'une certaine manière, et juridiquement, c'est le cas. Même si on n'est pas encore vraiment au Mali. Eh bien, d'une façon un peu analogue, nous attendons encore notre installation définitive dans la cité permanente, cité éternelle. Mais nous avons l'occasion de nous rassembler dans cette petite ambassade, parmi d'autres bien sûr, qui est le 72 rue de Sèvres. Voilà pour l'encouragement. Nous sommes invités à déjà anticiper ensemble la cité céleste, vivre sous l'autorité de Dieu, la reconnaître pleinement, l'adorer, lui rendre un culte ensemble. Mais de cet encouragement découle une exhortation. Si notre espérance, c'est un monde où Dieu a toute sa place, alors, et je rejoins ce que je disais un peu plus tôt, comment ne pas faire dès maintenant tout pour lui faire toute la place dans nos vies ? Il faut nous poser cette question. Quels sont les choix, les habitudes, les attitudes qui nous rendent la tâche plus difficile pour faire toute la place à Dieu ? Et enfin, pour terminer, un mot de notre cité présente, Paris. Pour reprendre les mots de la lettre aux Hébreux, ce n'est pas notre cité permanente, mais c'est une ville que Dieu aime. C'est une ville dans laquelle il a un peuple de plus en plus nombreux. Le Paris que nous connaissons aujourd'hui, c'est vrai, ne sera plus là au jour où le nouveau monde poindra et où Dieu balayera le mal, la souffrance et la mort. Mais je crois que nous pouvons espérer qu'il y aura encore quelque chose de Paris dans la ville à venir. Et j'en veux pour preuve les versets 24 et 26 du chapitre 21. Verset 24, « Les nations marcheront à sa lumière, la lumière de Dieu, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Verset 26, « On y apportera la gloire et l'honneur des nations. » Et je crois que ce que ces versets nous disent, c'est qu'il y aura dans le monde à venir le meilleur du monde présent. Tout ce qui est bon aux yeux de Dieu. Alors plus nous contribuerons par nos prières, nos actions, nos vies de disciples à ce que Dieu ait toute sa place à Paris aujourd'hui. Si nous, en quelque sorte, nous revendiquons cette ville pour lui, eh bien plus nous pouvons espérer retrouver un jour dans la ville que nous attendons, quelques reflets au moins de cette ville que nous aimons. Amen.